justement.
Ce que je voulais dire, c'est pour ma fille, suivie au CHU aussi, mais c'est en pédiatrie. Et il y a même quand même des années qu'on n'est pas en évidence dans le sang, rien du tout, mais elle a tous les alentours en dessous. Et puis ma nièce aussi, qui est la fille de mon frère. Donc dans notre famille, c'est un peu génétique parce qu'il y a un mélange de sang. C'est assez des cousins-cousins qui sont mariés ensemble. Et ce qui fait que nous, on est une souche, comme vous avez dit, c'était héréditaire. Et on a cette possibilité-là. Donc il refuse aussi de médicaliser. Donc aucun médicament. Et la seule chose qu'ils ont proposé, c'est de faire de l'auto-hypnose. De temps en temps, elle a un anti-inflammatoire quand c'est la catastrophe, ça ne fonctionne pas non plus. En fait, avec les enfants ou les adolescents, je vois qu'ils les laissent un petit peu de côté parce qu'ils n'osent pas, je pense, tester tous ces médicaments foires. Hein. Mm. Et après, ils confondent entre la fibromyalgie et le chocal. Alors, si vous avez un peu les deux, c'est ce qu'ils m'ont dit que ma fille aurait les deux, depuis l'âge de 3 ans, c'est ce qu'ils nous disent qu'elle a 7 ans. Ils n'aident pas avec les médicaments. Et elle souffre. Elle se trouve la moitié de sa vie à l'hôpital à gauche à droite. Nous, on fait toutes les urgences, l'hôpital de l'enfant CHUV. On a fait. C'est vraiment le coup du combattant.
Ce qu'on fait généralement, c'est vrai que c'est parfois très difficile de faire la part des choses, surtout pour les maladies qui évoluent depuis longtemps. Donc, on peut faire ces dosages plus fins. Et puis, on peut faire les tests à la prednisone. En principe, la prednisone n'a pas d'efficacité sur la fibromyalgie. Donc, quand on ne sait pas bien si un symptôme est attribué à ça, la prednisone est un bon test sur un mois. On donne des relativement hautes doses sur un mois et puis on regarde ce qui se passe. Malheureusement, sur beaucoup de symptômes, la prednisone sera inefficace. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour la polyneuropathie, il y a une altération morphologique des fibres. Ce n'est plus uniquement inflammatoire. Ça peut être régressif sur le long terme, hein. Les fibres peuvent se régénérer. Mais en un mois de prednisone, ça ne suffira pas et on n'arrivera pas à mettre en évidence un avantage. Donc c'est parfois très difficile. Alors, mais on peut utiliser des NMG, on peut utiliser ces dosages de cytokines, et puis quand on a des auto-anticorps qui sont très élevés, comme le FAN, les anticorps anti-SSA, etc., on a généralement des arguments assez forts pour aller plus loin. Oui.
J'ai beaucoup de problèmes de mémoire et de concentration. Ça peut être lié au...
Ah oui, pour deux raisons. Ça a été décrit par M. Wren. Ça peut être associé éventuellement à une activité inflammatoire au niveau cérébral, c'est possible. Mais ça peut aussi être associé au stress pendant une maladie. Ça peut associer au trouble du sommeil, ça peut être associé à la dépression en tant qu'entraînement. Donc il y a plusieurs possibilités.
Ouais.
Alors c'est vrai, en fait.
Le terrain est très efficace.
Ouais, ouais. Et j'ai d'ailleurs, j'ai encore une diapositive sur la fatigue du syndrome de Sjögren qui est vraiment un gros problème. Hein. C'est généralement un énorme problème. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous voyez, c'est le MacTerra qui est tout en haut de la liste pour la fatigue. Les effets-là ont pu être démontrés. Les effets démontrés sont faibles, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forts, mais on a pu démontrer des effets faibles, ça veut probablement dire que c'est un bon effet. Et puis la prednisone à petite dose, ça peut être très efficace, mais encore une fois, c'est difficile, mais pourquoi pas la prendre ponctuellement. De nouveau, si on a le mariage de sa fille, ou son mariage, ou Dieu sait quoi, on peut prendre la prednisone pendant 2 semaines, et puis faire face à certaines choses, comme ça. Voilà, parce que maintenant, à l'heure actuelle, le but du traitement du Sjögren, c'est d'essayer d'arriver à ça chez tout le monde. Alors, on n'y arrive pas encore chez tout le monde, hein, mais ça vaut la peine de tâtonner, d'essayer, parce qu'on a les moyens, et de ne pas se dire simplement « non, on n'y arrivera pas, l'humour n'a pas marché, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Oui. »
Vous avez une idée, qu'est-ce
qu'on peut dire? Non, je ne suis pas sûr qu'on me dirait ce que je demande. J'ai aucune idée.
Vous voyez,
en 1920.
C'est sûr. occupé l'homme allemand. Sauf parce que j'ai pas compris ça. C'est du courage.
Je ne voudrais pas plus citer les.
Comment ça s'appelle millions à la.
Les cellules souches. Ça doit faire cellules souches.
Il n'y a vraiment aucune évidence. Il n'y a pas non plus, je dirais, d'évidence conceptuelle pour ça, pour les cellules souches.
D'accord.
Ce qu'on a fait, c'est des greffes de cellules nucléiques dans le mucus. Ça, c'est ce qu'on fait. Et dans la sclérodermie, surtout. La sclérodermie est aussi une maladie cousine du sclérome. Et dans l'état très grave, à une certaine époque, notamment en Suisse, à Bâle, on a fait des greffes de moelle. On prend des cellules souches après avoir donné des traitements, mais c'est des traitements extrêmement lourds, avec une grosse mortalité. Et puis, finalement, maintenant, on a de meilleurs traitements, beaucoup plus efficaces, probablement, en tout cas aussi efficaces, mais beaucoup moins toxiques. Pour ce qui est des cellules souches, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais probablement, en fait, quand on prend des cellules souches, je sais où, et puis quand.
Je sais où.
Ouais. Mais ça, c'est pas. Non. Il n'y a pas d'évidence clinique prouvée, il n'y a pas d'évidence conceptuellement.
Est-ce que c'est une voie de recherche encore ou pas?
Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Pour ça, cette maladie-là.
Cette maladie-là.
Ce qu'on pourrait éventuellement imaginer, c'est un resetting du système immunologique, c'est ce qu'on fait dans ces greffes de moelle, c'est-à-dire que. On prélève des cellules de la moelle osseuse des patients, on les traite, on irradie les patients, ensuite on leur donne une chimiothérapie très forte et on réinjecte.
C'est ce que j'ai dit. Ah.
Ça se fait dans la sclérodermie. Le principe, c'est un resetting, c'est-à-dire qu'on remet à zéro le système immunitaire, mais à mon avis, c'est pas valable parce que la personne garde les mêmes gènes, garde. C'est pas les mêmes facteurs de l'environnement, et puis en plus, c'est extrêmement toxique. Donc ça ne se fait pas pour ce sujet. Et ça ne se fait pratiquement plus pour la sclérodermie.
Dans les approches non médicamenteuses, c'est ce que je voulais dire.
Pardon ?
Dans les approches non
médicamenteuses. Alors, non
médicamenteuses. C'était dans le titre.
C'était dans le titre.
Les humidificateurs.
Voilà, il y a les humidificateurs. Mais on peut en parler quand même. Je vais répondre à cette question quand même. C'est une bonne question, c'est une très bonne question. C'était peu étudié dans le Sjögren, c'était plus étudié dans la polyarthrite rhumatique, qui est quand même plus fréquente, alors que finalement, on l'a considéré comme plus fréquente. Alors que maintenant, on considère que la prévalence du Sjögren est presque équivalente à celle de la polyarthrite rhumatoïde, mais c'est moins étudié. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que il y a les graisses à base de poisson, les huiles de poisson, ont un effet général sur l'inflammation. Et l'huile d'algues aussi. Donc, il vaut mieux manger, en termes d'inflammation, plus de poisson que de viande de mammifère. Par contre, il y a le problème de la source du poisson qui n'est pas évidente. Manger que du poisson, ça peut être dangereux. Les algues, ça peut être défendable, c'est certainement une bonne approche. Mais c'est pas miraculeux, mais ça peut aider. Il faut une bonne alimentation générale, mais pour tout le reste, il n'y a rien qui, malheureusement, qui a pu être démontré. Par exemple, les régimes sans lactose, ça n'a pas été démontré sur le plan statistique. Probablement qu'il y a quelques. Si on se sent allergique au lactose, au protéines du lait, et puis qui développe des arthralgies ou des choses comme ça, mais statistiquement, ça n'a pas été démontré. Si quelqu'un a vraiment l'impression que la consommation de produits laitiers augmente ses symptômes, ça vaut la peine d'essayer de les arrêter, si possible de manière très rigoureuse, c'est-à-dire d'arrêter les produits laitiers complètement pendant 3 mois, voir sans faire d'autres changements thérapeutiques, et puis voir si ça a un impact ou pas. Si on a l'impression que ça en a un, reprendre des produits laitiers pendant 3 mois et les réarrêter pendant 3 mois, et si on a vraiment la conviction que oui, ça amène un bénéfice, alors pourquoi pas. Mais il faut savoir que sans produits laitiers, c'est difficile, le lait est important, mais pourquoi pas. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été dites sur le gluten, que vous avez probablement entendu. Là aussi, il n'y a pas d'évidence statistique, aucune. mais il y a des patients qui disent à l'aiguille, c'est très possible. Alors là aussi, il faut essayer d'une manière rigoureuse.
Je voulais dire que quand on a découvert le cerveau, j'avais mal partout. Et il y a plus de 15 ans, et je suis allée au CMU, j'ai regardé c'est vrai, il y a ceux qui faisaient les dossiers, qui m'a dit, vous ne connaissez pas Boswellia serrata, c'est un anti-inflammatoire naturel, et je le prends depuis 15-16 ans, il n'a aucun effet secondaire, j'ai beaucoup moins mal, et ma maladie n'a pas du tout augmenté. Elle n'a pas guéri, mais elle n'a pas du tout augmenté. Alors voilà, si, je le dis quand même, parce que ça m'a vraiment aidé. Mais il ne faut pas avoir la polyarthrite rhumatoïde, hein, c'est sûr.
Alors, cela dit, le salon de chez Vannes, il faut être plus grave, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Hein. Il y a des polyarthrites rhumatoïdes bénignes, c'est la même chose que naturelle. Il y a toutes les formes, des formes très bénignes et des formes très graves. Proportionnel. Il y a clairement des chirurgiens qui sont plus graves que certaines couvertures rhumatoïdes et inversement. Pour ce Boswellia, probablement qu'il avait un effet statistiquement fort, ça aurait été démontré. Cela dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore.
Hein. C'est ayurvédique, ça.
Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, et je ne vais pas dire que c'est parce que ce n'est pas démontré que ça ne marche pas. Mais les gens qui vendent ce produit, si vraiment il est très efficace, on va essayer de faire des tests, des études. Et puis, probablement, on aurait pu démontrer l'efficacité. Si c'est efficace, il peut vendre plus cher, vous savez. cela dit, non, mais vous avez peut-être bien raison, j'en sais rien. Vous avez très justement raison.
Racine de l'arbre en sens.
Ouais. Vous avez peut-être bien raison, et il y a des molécules. Vous savez, par exemple, la cytosporine, si je suis déjà dans les plantes. Ensuite, on est isolé et on a corrigé pour que ce soit plus efficace. Il y a beaucoup de choses qui nous ont fait. C'est très possible que dans quelques années, on ait déjà la pratique active quand il sort. Oui, oui,
oui. Excellent. Voilà, exactement. Ça, c'est la meilleure. On va vous dire tout à l'heure. Question idiote encore, c'est si j'avais pas été là pour écouter tout ça, j'aurais appris ça où et comment ça y est.
Alors, bonne question. En principe, au fil d'une bonne relation avec son médecin, on devrait aborder progressivement tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours possible.
C'est après combien de temps?
Ça peut être ça.
La question, c'est ça. Quand ça fait un an, deux ans, trois ans, on ose leur dire, mais on peut tester si c'est ça.
Ah oui, bah bien sûr.
Non, parce qu'on se sent un petit peu comme un pion qui est à gauche, à droite, puis il y a trois ans qui se sont écoulés, puis rien.
Alors, je pense clairement qu'il y a des médecins qui connaissent ça, et d'autres médecins qui connaissent d'autres choses. Hein. Donc, il faut se renseigner un peu, ne pas écouter à demander un ami mental ou leur son immunologie ou un son immunologie. Et puis, on peut ensuite les orienter vers des patients, des médecins en médecine de ça ou des médecins médicales, parce que ce sont des possibilités parmi eux. Et puis, je pense que dans votre groupe, vous pouvez aussi échanger sur les médecins qui connaissent mieux. La problématique, c'est que visiblement, en entendant que ce plusieurs d'entre vous ont dit, il y en a qui connaissent très très bien.
Vous avez souvent pour aller voir un spécialiste qui fait une recommandation de son médecin, par
exemple. Oui,
madame. J'essaie d'avoir un rendez-vous avec vous, avec une lettre de votre médecin. Mon médecin, je le connais depuis 25 ans, ça me gêne un tout petit peu d'une journée d'aller chez quelqu'un pour mon médecin.
C'est une question d'assurance. Ouais.
Non, c'est une question de. Non, si vous avez
beaucoup de. Ça peut être problématique, effectivement.
Parce que cette fois, on est des fois dans des situations où on va faire du tourisme local et essayer de mettre ça en état. C'est aussi long pour rendre compte si ça va bien ou pas. On commence, on a l'impression que ça va. Hein. Quand mon médecin est un nouveau traité, c'est pas de chance, ça ne fait pas d'effet, mais on va pas l'arrêter. Moment, j'ai un peu scié, mais j'ai pas pensé à aller pourquoi. J'étais. C'est parce qu'en fait, c'est après, c'est embêtant, il a réussi.
Cela dit, c'est pas une erreur, je crois, de ne pas l'arrêter. C'est certainement pas une erreur parce qu'on n'a pas pu démontrer son effet scientifiquement, on a d'autres molécules maintenant. Peut-être qu'il a raison. Donc c'est difficile. Ça a été démontré que ça servait à rien. C'est une étude qui a montré ça, mais il y a encore une fois une étude qui a montré que le mascara ne servait à rien dans le lupus. Alors qu'on sait que ça marche. Mais on n'a jamais été bouleversé par les effets du caténil en traitant les patients. Et je dirais que les résultats de cette très bonne étude française ne nous ont pas surpris.
Ouais. Oui, les autres traitements dont vous parlez, c'est s'il y a autre chose qu'un syndrome sec, tous ces immunosuppresseurs,
alors,
ce pas, si on a vraiment un syndrome sec très avancé, mais sans arthralgie ou autre.
Alors, c'est ce que je disais au début, c'est rare qu'on donne des immunosuppresseurs ou des traitements vraiment très énergiques quand il n'y a que un syndrome sec. Mais ça peut se discuter. Ça peut se discuter pourquoi? Parce que le syndrome sec peut être extrêmement invalidant, d'abord, quand il est sévère et qu'on est obligé de recourir à des séromatologues ou des opérations, des trucs comme ça, ça peut être très invalidant. Ça vaut la peine probablement aussi d'essayer ce que vous avez essayé, c'est gentil, ça peut bien marcher chez certains. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si le syndrome sec se prolonge, l'inflammation de la glande, des glandes va entraîner une fibrose et une destruction du tissu glandulaire et finalement on n'en aura plus. Et dans ces cas-là, si on a des évidences par la biopsie qu'il y a une forte inflammation, un début de fibrose et que c'est très invalidant, je dirais qu'un traitement peut se discuter. C'est relativement rare que le syndrome de Sjögren sévère à ce point ne touche que les glandes, qu'il n'y ait pas une fatigue, des douleurs articulaires ou d'autres manifestations, mais ça peut se discuter, ça doit se discuter ouvertement quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. La salive et les larmes ne sont pas essentielles pour la vie, les traitements dont on dispose très rarement ont entraîné des décès, donc il y a beaucoup de médecins qui diront non, c'est vraiment contre-indiqué, mais si c'est très invalidant, compte tenu des attentes du patient, compte tenu de l'ensemble de la situation, ça peut se discuter. Oui.
Est-ce qu'on connaît un peu mieux les attentes cardiaques dans le syndrome de Sjögren actuellement ou pas? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les livres?
Ah, ouais, on n'en parle pas beaucoup, c'est pas très connu. On sait qu'il y a des choses simples, du pericardite, ça c'est assez fréquent, c'est pas très grave, ça peut être embêtant, ça peut être grave d'ailleurs même, ça entraîne la saignée. Il peut y avoir des troubles de la régulation cardiaque à cause des atteintes du système neurovégétatif, dont je vous ai parlé. L'atteinte du muscle cardiaque, conceptuellement, elle est possible. Parce qu'on sait qu'il y a des atteintes du muscle, clairement, avec des élévations, des enzymes musculaires dans certaines formes de Sjögren, et qui sont, je dirais, accessibles à la thérapeutique par les traitements dont on dispose. Et comme vous dites, pour une partie du spectre du Sjögren, c'est possible. Ce qu'il faut dire, c'est que la véritable atteinte cardiaque, elle est bien démontrée dans certaines formes de COVID itinéraire, et puis dans la sclérodermie, et probablement pour d'autres raisons qu'une atteinte uniquement cardiaque, parce qu'il y a une fibrose des tissus dans la sclérodermie. La vie, il y a des formes de chevauchement, mais pour l'atteinte purement cardiaque, du tissu cardiaque, il faut que je me renseigne, même moi, ça ne me vient pas à l'esprit. Comme ça, je n'ai pas cette notion. Il y a des tests à faire. Là, si on a l'impression qu'il y a, vous êtes au courant probablement, hein, de faire toutes sortes de tests, une traçon, pour voir s'il y a des volumes de l'enzyme, justement pour voir s'il y a des signes de fatalité.
Merci.